السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، الله سبحانه وتعالى نجد في son noble livre يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Les gens t'interrogent sur l'heure. Réponds-leur, seul Allah en a connaissance. Quand sais-tu? Il se peut que l'heure soit imminente. Et dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire avec ses deux doigts ainsi: بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire avec ses doigts ainsi: بِالْوُسْطَ وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ. Il a fait ce geste-là et a dit: j'ai été envoyé moi et l'heure ainsi. C'est-à-dire très proche. L'envoi du prophète alayhi salatu wassalam en soi est un signe, un petit signe de la fin du monde. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et du fait que l'heure de la fin du monde soit une chose grandiose et terrible, l'islam a grandement pris soin de nous exposer de manière la plus explicite ces signes avant-coureurs, de nous exposer les signes de la fin du monde, que les savants ont tantôt classés en petits et grands, tantôt en petits, moyens et grands. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé les signes de la fin du monde. Il a cité cela de manière détaillée. Il a cité cela à plusieurs reprises. Et tantôt dans une même assise, il a exposé les 10 grands signes de la fin du monde. Tout cela pour qu'on s'y prépare. Tout cela pour qu'on s'y apprête. Allah nous dit dans son livre: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Ne font-ils qu'attendre que l'heure vienne les surprendre, alors que ces signes précurseurs sont déjà apparus? Comment se rappelleront-ils lorsqu'elle leur viendra? Et sachez, ikhwat al-iman, que le premier signe des grands signes de la fin du monde qui aura lieu sur terre, c'est la sortie de l'Messie ad-Dajjal. Il y a plusieurs signes, mais celui qui se produira sur terre, la pire fitna connue, comme on le verra dans le hadith, sur terre, c'est la sortie, khuruj wa dhuhur al-masih ad-dajjal. Hudhayfa radiyallahu anhu ibn Usayd al-Ghifari nous dit: ittala'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayna wa nahnu natadhakar. Un jour le prophète alayhi salatu wa sallam nous est apparu alors qu'on se rappelait. Qala ma tadhakaru. Qu'est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce que vous mentionnez? Qalu nadhkuru as-sa'a. Ils ont répondu: on se rappelle ou on mentionne l'heure, c'est-à-dire l'heure de la fin du monde. Il a dit: innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. L'heure ne retentira pas sans que vous ne voyiez avant cela 10 signes. فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّبَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره رواه مسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a mentionné les 10 grands signes de la fin du monde dans ce hadith. Il a cité la fumée. Il a cité le Dajjal, le grand menteur. Il a cité la bête. Il a cité le lever du soleil de son coucher. Il a cité la descente de Isa, le fils de Maryam, alayhi salam. Il a cité Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog.
Il a cité 3 engloutissements de terre.
Un à l'Orient, un à l'Occident et un dans la péninsule arabique. Et le dernier de ces signes sera un feu qui émanera du Yémen, qui poussera les gens et les réunira sur la place. Qui les réunira sur la place, rapporté par l'imam muslim. Abu Huraira radiallahu anhu, quant à lui, nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ثلاثٌ إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Trois choses, lorsqu'elles sortiront, la foi d'aucune âme ne lui sera bénéfique tant qu'elle n'a pas eu la foi, sauf si elle avait eu la foi auparavant. C'est-à-dire que ce sont des signes tellement évidents que l'épreuve s'arrêtera. Celui qui n'était pas croyant avant ça, il va croire, mais ça ne servira à plus rien, plus à rien. Et le repentir ne sera plus accepté. أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. Le soleil se lèvera de son coucher ou de son couchant, le Dajjal et la bête sur la terre. Rapporté par l'imam muslim. Et parmi les plus grands signes de la fin du monde et les pires, il y a la tentation lors de la sortie de l'Messie al-Dajjal. Qu'Allah nous en préserve. Imran ibn Hussein radiallahu anhu nous dit, ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. راه مسلم. أكبر أي من حيث الفتنة والإضلال والضرر. نعم. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, il n'y a pas entre la création de Adam jusqu'à l'heure de la fin du monde, une créature plus grande que Ad-Dajjal, rapportée par l'imam muslim. Plus grande, c'est pas plus grande dans la taille, comme on le verra dans sa description. Plus grande, c'est-à-dire dans la tentation et l'égarement causé et le trouble sur la terre. Il n'y a pas pire. Plus grande, c'est-à-dire pire. Et le Messie Ad-Dajjal va sortir dans cette communauté, c'est inéluctable. Parce que c'est la dernière. Parce que le prophète alayhi salat wa salam a informé de cela. Il a dit, Ya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhi al-ard, mundhu dhara Allahu dhurriyata Adam, a'azama min fitnati Ad-Dajjal. Wa inna Allah azza wa jal lam yab'ath nabiyan illa hadhara ummatahu Ad-Dajjal. Wa ana akhiru al-anbiya. وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. Oh vous les gens, a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, il n'y a pas eu un trouble, un désordre, une tentation sur la terre, à la surface de la terre, depuis qu'Allah Azza wa Jal a créé Adam, pire que la tentation de Dajjal. Allahu Akbar. Il n'y a pas eu pire que la tentation, que la fitna et le trouble de Ad-Dajjal. Et Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé un prophète sans qu'il n'avertisse sa communauté contre le Dajjal. Et je suis le dernier des prophètes. Et vous êtes la dernière des communautés. Il va donc sortir parmi vous et ceci est inéluctable. C'est-à-dire, c'est sûr que ça va se produire. Et s'il sort, alors que je suis encore présent parmi vous, c'est moi qui m'en occuperai pour chaque musulman. Et s'il sort après moi, alors chacun aura à s'occuper de lui-même. Et c'est Allah que je vous laisse. C'est Allah que je laisse derrière moi pour chaque musulman. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonnait à sa communauté de chercher refuge auprès d'Allah contre le Messie Ad-Dajjal et sa tentation. Et cela de manière générale. Il ordonnait aussi de manière spécifique à la fin de chaque prière obligatoire avant le taslim, après le tashahud al-akhir. Aussi, il nous a informé, sallallahu alayhi wa sallam, comme on vient de le mentionner, que tous les prophètes, subhanallah, ont averti leur peuple. Alors que Allah azawajal savait qu'il allait sortir que dans la dernière communauté. Et si ça, ça nous indique quelque chose, ça montre que sa fitna, elle est très grave. À un point tel que des premiers jusqu'à Isa alayhi salam, ils ont tous averti contre le Messie Ad-Dajjal. Hein? Alors qu'il est, il va sortir que à la fin des temps, dans la communauté à laquelle a été envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam le décrivait et a enseigné aux sahaba quelle était sa fitna, quelle était sa description. Tout cela pourquoi, ikhwat al-iman? Pour qu'on se prémunisse contre son trouble. Pour qu'on se prémunisse contre son mal. Le An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam les répétait souvent, avertissait souvent. Il ne se lassait pas d'avertir contre ce mal parce que c'est la pire des tentations et c'est la pire fitna qui est connue ce bas monde. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, le message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma bu'itha nabiyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadhab. Il n'y a pas un prophète qui a été envoyé sans qu'il n'avertisse sa communauté contre le borgne menteur. Contre le borgne grand menteur. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna bayna 'aynayhi maktubun kafir. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et sachez qu'il est borgne et que votre Seigneur n'est pas borgne. Il est inscrit entre ses deux yeux kafir, mécréant. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit, on tire comme leçon que cet avertissement, on tire comme leçon de cet avertissement le fait de savoir qu'il existe réellement. Le fait de savoir qu'il existe réellement et la ferme détermination à avoir pour s'opposer à lui, le contredire, ne pas le suivre. Naam. Et aussi comme leçon de connaître ces hadiths, c'est se diriger véritablement vers Allah pour lui demander de nous protéger. Le fait de connaître sa fitna, de savoir qu'il va sortir et que c'est une réalité, ça nous pousse à quoi? Déjà, on sait que ça existe, c'est de la aqida, c'est de la croyance. Et aussi, ça nous pousse à faire dua et à chercher protection auprès d'Allah Azzawajal. Parce que nul n'est protégé, sauf celui qu'Allah Azzawajal a protégé. Si ne serait-ce même contre eux, une fourmi, contre un moustique, ça peut causer ta perte si Allah ne te préserve pas. Wala hawla wala quwwata illa billah. Que dire alors de la pire tentation qu'ait connue ce bas monde depuis la création de Adam jusqu'à la fin des temps. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit aussi que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, alaw hadithukum hadithan an ad-dajjal ma haddatha bi nabiyyun qawma. Ne vais-je pas vous informer, vous mentionner un sujet au sujet de, ou des propos au sujet de Dajjal, jamais un prophète n'a mentionné cela à sa communauté. Innahu a'war. Il est borgne. Wa innahu yaji'u ma'ahu mithal al-jannati wan-nar. Il viendra, il y aura avec lui tel un paradis et un enfer. Fallati yaqulu innaha janna hiya an-nar. Wa inni unzirukum kama anzara bi nuhun qawma. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Il est borgne. Et il viendra, il aura avec lui tel un paradis et un enfer. Et celui qu'il dit, pour lequel il dira que c'est un paradis, ça sera en réalité le feu. Ce sera en réalité le feu. Et je vous avertis, comme a averti Nuh alayhi salam, son peuple. As-Safarini, wa Safarini, rahimahullahu ta'ala, dit dans l'Awami' al-Anwar, wa yanbaghi li kulli 'alimin an yabutha ahadith ad-dajjal bayna al-awlad wan-nisaa وبين الأولاد والنساء والرجال لا سيما في زماننا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع والبدعة شرع متبع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد اهتم السلف بنشر حديثي حتى في الكتاب الله أكبر السفارين رحمه الله تعالى nous dit il convient à chaque savant de propager les hadiths relatifs au Dajjal au sein des enfants au sein des femmes et des hommes particulièrement à notre époque dans laquelle les tentations et les troubles se sont répandus, dans laquelle les maux se sont propagés, dans laquelle les emblèmes de la sunna ont été enterrés, dans laquelle les sunan, les traditions prophétiques, sont qualifiées d'innovations. Et les innovations sont devenues une législation suivie. Subhanallah, il parle de quelle époque? De son époque. Qu'est-ce qu'on va dire nous à la nôtre? وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Et il n'y a de capacité pour passer d'un état à un autre et de force pour le faire que par Allah, le Très-Haut et l'Immense. Et les pieux prédécesseurs ont accordé énormément d'importance à la propagation de cela, à un point tel, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir ce qui enseignait le Coran aux enfants. Ils leur apprenaient ces hadiths sur le Messie Ad-Dajjal pour qu'ils enseignent cela. Pour qu'ils enseignent cela aux enfants. Tout petit déjà, on les vaccinait et on les avertissait contre le Messie Ad-Dajjal. Naam. Et dans ça, il y a une grande faïda. C'est que d'avertir contre les gens du mal et d'avertir contre Ahlul Bid'ah, ça se fait dès tout petit. Ça se fait dès tout petit. Afin que l'enfant grandisse avec un penchant que vers le khair, un penchant que vers la sunna. Tu l'avertis tout petit contre les gens du mal. Tu l'avertis tout petit contre les gens de la bid'a, contre les gens de la hizbiya, contre les khawarij, contre ceux qui parlent sur les gouverneurs. Tu les avertis tout petit. Contre ceux qui renient les attributs d'Allah. Contre ceux qui altèrent le sens des attributs d'Allah. Tout petit, tu l'avertis. Contre al-Rafida, ceux qui insultent les sahaba. Contre shi'a, tu les avertis des tout petits. Hada muhim jiddan. Certains pensent que ça c'est que pour les hommes, c'est que pour les... Non! Ou que pour les tulib'in. Les fitan, il faut avertir tous ceux qui sont susceptibles d'être touchés par cela. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et le fait de peu mentionner al-Masih ad-Dajjal, c'est un signe de l'échec. Et c'est même une cause de sa sortie. Je vous pose une question subsidiaire. Suite à quel événement Allah Azza wa Jalla a envoyé le premier messager aux gens de la terre. J'entends beaucoup de voix, mais comme ça en même temps, j'ai du mal à comprendre. Non, Marie.
On va commencer à oublier la science de pourquoi leurs aïeux avaient créé les statues.
Non, précisément donc.
Par la science, c'est parti.
À part, yani, suite à quel événement, précisément, Allah Azza wa Jalla a envoyé le premier messager aux gens de la terre, Nuh. Naam. L'apparition du shirk. Lorsque le peuple auquel il a été envoyé ont adoré les cinq statues représentant les cinq personnes vertueuses du peuple de Nuh, mentionnées dans Surat Nuh. وَقَالُوا لَتَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَتَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Abdullah ibn Abbas dit, ces cinq personnes sont les personnes vertueuses du peuple. Auquel a été envoyé Nuh. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait au final? Ils ont été adorés en dehors d'Allah Azza wa Jalla. D'accord. Donc l'envoi du premier messager aux gens de la terre, il a été suite à quoi? L'apparition du shirk. On a envoyé Nuh.
Puis on a envoyé Saleh, Houd, Shu'aib, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à Isa alayhi salam, jusqu'à arriver à Muhammad alayhi salatu wa salam. N'est-ce pas? Et dans tout ce laps de temps, il n'y a pas eu la fin du monde. Vous me suivez? D'accord. Quand est-ce qu'Allah Azzawajal va permettre à l'ange qui tient déjà présentement un seau à sa bouche, il attend juste l'ordre d'Allah Azzawajal pour souffler, il sera fait. Quand est-ce qu'Allah va lui donner la permission de souffler? Lorsqu'il n'y aura plus le tawhid sur la terre ne méritera plus d'être vue. Dès qu'il n'y aura plus le tawhid sur la terre d'Allah Azza wa Jal, et qu'on ne dira plus Allahu la ilaha illallah, Allah Azza wa Jal va envoyer un vent où il y aura les derniers quelques croyants. Tous ceux qui vont le respirer, ils vont mourir. Et l'heure ne retentira que sur les pires des gens. L'envoi du messager pour rétablir le tawhid. Il n'y a plus le tawhid. Une fois, il n'y a plus le tawhid. Eh bien, il n'y a plus la terre, c'est la fin du monde. Wadih? Tayyib. Si vous avez compris cela, tant que le tawhid est propagé, tant que la da'wa est là, tant que les gens unifient Allah, il n'y a pas la fin du monde. N'est-ce pas? Tayyib. Tant que le Messie Ad-Dajjal, on avertit contre lui, tant qu'on met en garde contre lui, tant qu'on connaît cette science-là, il ne sort pas. Et dès lors que les gens sont insouciants, dès lors que les gens oublient leur aqidah, dès lors qu'ils s'éloignent, écoutez ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم, يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. Quand Dajjal va sortir, les gens auront peu de religiosité et ils tourneront le dos à la science. Quand ils vont être dans l'insouciance, quand ils vont être dans les péchés, quand ils vont délaisser le din, quand ils vont délaisser l'ilm, c'est un moment comme ça où Dajjal va sortir. Ce hadith rapporté par l'imam Ahmed sur les conditions de l'imam muslim. As-Sa'b ibn Juthama a dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, لا خروج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. الصعب بن جثامة a dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le Dajjal ne sortira pas jusqu'à ce que les gens soient distraits de lui. Par sa mention. C'est-à-dire, ils vont arrêter de le mentionner, arrêter d'en parler. Écoutez bien la suite. Jusqu'à ce que les imams délaissent sa mention sur les minbars. Subhanallah. Hein? Et lorsque tu mets en garde contre, et ce hadith-là, il rapporte par Ahmed, au par Abdullah ibn, le fils de l'imam Ahmed, rahimahumallah, dans Zawaid, ibn Abi Asim, al-Tabarani, ibn Kathir a dit qu'il est hasan. Tayyib. Et lorsque les imams de la sunna, ils avertissent contre les fitaines, ils avertissent contre le mal, on dit, ils parlent des fitaines. On dit, ils parlent pas des sujets de société, ils parlent pas de ça, ils font pas de politique, ils font, subhanallah, ça, là. C'est la da'wa du prophète, alayhi salatu wa salam. Ça, c'est la da'wa des prophètes. Depuis Nuh, alayhi salam, jusqu'au dernier Muhammad, alayhi salatu wa salam. Ça, c'est la da'wa de ruhama, de l'ulama. Ça, c'est la da'wa des savants, de ceux qui ont de la pitié pour toi. C'est la da'wa des sages. Min babi araftu sharra la li sharri lakin li tawaqihi. J'ai connu le mal, non pas pour le mal en soi, mais pour m'en préserver. Et Hudhayfah ibn al-Yaman radiallahu anhu disait, Kana an-nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil khayr. Wa kuntu as'aluhu anil shar. Makhafatan an yudrikani dhalik. Les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Et moi, je l'interrogeais sur le mal, de peur que cela ne m'atteigne. Ça, c'est la da'wa de Ahl Sunnah, d'avertir contre le mal, par miséricorde pour la communauté, afin que les gens ne tombent pas dans la tentation et le mal. Ad-Dajjal sortira à un moment où il y aura une sécheresse. À un moment, il n'y aura même plus de quoi se nourrir avec de la nourriture. Abu Umama al-Bahili radiallahu anhu dit, comme le rapporte Abu Daoud et autres, Ibn Majah, Inna qibala khuruj ad-dajjal thalath sanawat shidad. Avant la sortie de Dajjal, il y aura trois années de disette ou trois années difficiles. Yusibu an-nas fiha ju'un shadid. Les gens seront touchés par une faim terrible. Ya'muru Allahu as-samaa'a as-sanata al-oula an tahbisa thulutha matariha wa ya'muru al-ard an tahbisa thulutha nabatiha. La première année, Allah Azza wa Jalla va ordonner au ciel de retenir un tiers de son de sa pluie, de son eau, et leur donnera à la terre de ne pas faire sortir un tiers de ses de sa pousse, de ses plantations. La deuxième année, Allah ordonnera les deux tiers. La première année, c'était combien?
Un tiers.
La deuxième année, deux tiers. Que ce soit pour la pluie, dans la descente, ou la sortie de la subsistance du terre, de la terre. La troisième année, Allah Azza wa Jal lui ordonnera de retenir tout son eau. La troisième année, ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ. Troisième année, Allah Azza wa Jal ordonne au ciel. Et le ciel va retenir toute son eau. فَلَا تَقْتُرُ قَطْرَةً. Il n'y a pas une goutte d'eau qui tombera. Et il ordonnera à la terre de retenir toutes ses cultures. Rien ne poussera de vert. فَلَا يَبْقَى ذَاتُ ذِلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ. Il n'y aura pas une seule chose du bétail sans qu'il ne périra, sans qu'elle ne périsse, sauf ce qu'Allah voudra. Et là, vous ne vous posez pas une question? Comment les gens vont manger? Comment ils vont se nourrir? Qila fama ya'ishu an-nasa fi dhalika zaman. Fama ya'ishu an-nas. Les sahaba ont demandé, mais ils vont vivre de quoi alors? Comment ils vont se restaurer à cette époque? Écoutez, qala at-tahlil wa at-takbir wa at-tamhid wa tahmid. Wa yujzi'u dhalika 'alayhim majza. Afwan. Majza'at at-ta'am. À ce moment-là, ils vont faire quoi? Ils vont se nourrir en disant « La ilaha illallah » « Tahlil »« Allahu Akbar »« Al-Takbir »« Alhamdulillah »« Al-Tahmid » Et cela prendra la place de la nourriture. Cela prendra la place de la nourriture, ou ça leur vaudra pour la nourriture. Une des choses les plus importantes que tu te dois de connaître et d'assimiler, la description de Ad-Dajjal. Naam, la description de Ad-Dajjal. Après réunion des différents ahadiths, les savants nous disent: Huwa rajulun shabun min bani Adam abyad ma humra wa la ma'an jasimun 'azimul khilqati ma'annahu qasir ja'dur ra's kathirush sha'r أعور العين اليمنى كأن عين كأنها عنبة طافية وبارزة والعين اليسرى معيبة أيضا ممسوحة وهو أفحج عقيم لا يولد له مكتوب بين عينيه كافر كتابة حقيقية كما قال النووي رحمه الله تعالى حسية لا معنوية كما قال وأكد ابن كثير رحمة الله عليه. On aurait pu citer beaucoup de hadiths et tirer de chaque hadith les caractéristiques, mais comme certains savants ont fait, je vous cite tout d'abord l'ensemble des caractéristiques qui nous sont parvenues à mon petit niveau. C'est un homme
qui est jeune, qui fait partie de la descendance de Adam. Il est de couleur blanche, donc troublé d'un rouge. Il a une corpulence gigantesque. Mais il est petit de taille. Il a les cheveux très crépus. Comme on dirait en français les nœuds. Il a les cheveux très crépus. C'est pas bouclé comme on, certains ont traduit par bouclé, mais c'est pas bouclé dans le sens comme on dit, ah, il a les beaux cheveux bouclés. Non. C'est dans le sens très crépus. Djad. Et il a énormément de cheveux. Il a beaucoup de cheveux. Quant à ses yeux, il est borgne de l'œil droit. C'est qui le borgne? C'est celui qui a un des deux yeux qui est crevé, disons ainsi. Et le prophète a appuyé cela en disant que cet œil-là ne comporte pas de lumière. La lumière de son œil est éteinte. Donc, il est borgne. Comme si son œil était dépourvu de lumière. Semblable à un raisin qui flotte. C'est-à-dire qu'il n'est pas exorbitant, il ne sort pas énormément. Non. Ni il est à l'intérieur de sa cavité comme s'il était creux. Mais il est clairement apparent dans toute sa déformation. Ajoutez à cela que son œil gauche également est défectueux. Et il y a comme un bout de chair qui sort. Son apparence est donc hideuse, laide. Quant à ses jambes, elles sont arquées, clairement. C'est-à-dire qu'il y a un écart disproportionné dans ses genoux, l'un envers l'autre. Vous connaissez celui qui est arqué, comment la forme de ses jambes? Elle va vers l'extérieur, la jambe droite vers l'extérieur, la jambe gauche également. Il est arqué. Quant à son dos, il est courbé. Il est... J'oublie le terme. Comment on dit, il n'arrive pas à avoir d'enfant? Il est stérile. Il est hakim. Naam. Il est stérile. Il ne peut avoir d'enfant. Il est stérile. Il ne peut avoir d'enfant. Est écrit entre ses deux yeux kafir, ce qui signifie mécréant. Dans notre version, ce sont les lettres alphabétiques qui sont inscrites. C'est-à-dire le kaf, naam, le fa et le ra. D'accord? Cette inscription est une inscription réelle. C'est pas une image. Comme l'a expliqué An-Nawawi, Ibn Kathir et d'autres. Quant à son appellation, Al-Masih et Al-Dajjal, il a été appelé Al-Masih parce que son œil est mamsouha. Par rapport au défaut de son œil. Naam. Et il a été appelé Al-Dajjal parce que Al-Dajlou, c'est le mensonge et la tromperie. Et ces choses-là sont inhérentes à sa personne. C'est un grand menteur et il trompe les gens. Il vient avec des choses pour les égarer et les tromper. Quand une personne ment, tu dis elle a menti. Quand elle ment beaucoup, tu dis c'est un menteur. Quand c'est inhérent à sa personne, tu dis kazoub. Au-dessus de ça, c'est Dajjal. Hein? C'est un Dajjal. Dajjal, ça englobe ces deux caractéristiques. Le mensonge qui est inhérent à la personne et la tromperie. Le fait d'induire volontairement les gens en erreur. Il va venir avec un paradis, on a dit que ça sera quoi, par exemple? Ça sera le feu, l'enfer. D'accord? Il va prétendre être le Seigneur, il va prétendre... Yani, c'est du Dajjal. Hein? C'est de la tromperie. C'est de la tromperie, c'est ça un Dajjal. D'accord? C'est ça un Dajjal, c'est quelqu'un qui est dans le mensonge, dans la tromperie. Voilà, iyadhu billah. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Al-Masih, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Ad-Dajjal.
il va venir avec des choses extraordinaires. Hein? Il va venir avec des choses extraordinaires. Et il va couvrir de son faux le vrai au point de tenter des gens. Et beaucoup de gens vont le suivre. Parce qu'ils vont voir son dajjal. Parce qu'ils vont voir cette, ces choses extraordinaires. Il viendra avec des ambiguïtés. Il va troubler les gens. Et il va égarer bon nombre de serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et cette inscription entre ses deux yeux, chaque croyant pourra la lire. Le lettré comme l'illettré. Le lettré comme l'illettré. Et comme on a cité dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, la particularité de Dajjal sur laquelle il a le plus insisté, c'est qu'il est borgne. Pourquoi? Parce que malgré tout le faux, malgré tout toutes les choses extraordinaires, ça, il pourra pas le cacher. Non? Ça, il ne pourra pas le cacher. Le fait qu'il soit borgne, c'est devant, c'est apparent. Donc, de se concentrer sur cette caractéristique, c'est très important. Il se déplacera sur la terre à une vitesse incroyable. Comme la pluie qui est portée par le vent. Kalreifi istadbarat hurriyah. Vous voyez, lorsqu'il y a une pluie, et qu'il y a du vent, ce que ça fait? La pluie, elle s'abat sur les gens. Eh bien, on a décrit la propagation des Dajjal sur la terre par cela. C'est apporté par l'imam Muslim. Après avoir parlé de sa fitna, de sa description, voyons maintenant d'où il sortira. De quel pays, de quelle contrée du monde il sortira. Yakhruju min jihati al-mashriq. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya'ti al-Masihu min qibali al-Mashriq. Rapporté par l'imam Muslim. Il sortira de l'Orient. Il sortira et apparaîtra de l'Orient. Na'am. Rapporté par l'imam Muslim. Il sortira précisément de Khurasan. Il sortira de quelle ville? De Khorasan, qui se trouve présentement où? Iran, en Iran. Puis, il passera par la ville de Asbahan. Il passera par la ville de Asbahan. Et c'est là qu'il aura ses premiers grands suiveurs. Parmi des gens du livre, 70 000 le suivront et iront avec lui. Et se lieront à lui. Donc il sortira pas de Asbahan, il sortira de Khurasan, il apparaîtra à Khurasan, il passera par Asbahan et c'est là-bas qu'il aura ses ansar, ses secoureurs, ses suiveurs, ceux qui adhéreront à son prêche. Il a beaucoup de tentations et il a beaucoup de faits et de choses extraordinaires qui vont troubler les gens et égarer la plupart. Passons à ce point-là. Ya'ti ila al-qawm fayad'uhum ila ibadati nafsi. Premièrement, il va venir aux gens et il va les appeler à l'adorer. Ils vont lui répondre à cela. Deuxièmement, ya'muru as-sama fatumtir. Il va ordonner au ciel, subhanallah, de pleuvoir, et il va pleuvoir. Wal ard fatunbit. Il va ordonner à la terre de faire pousser ce qu'il y a en son sein, et ça va sortir. Il viendra d'autres personnes, ces derniers le repousseront. Parmi sa fitna, il aura avec lui un paradis et un enfer, avec lesquels il tentera les gens. Celui qui lui obéira, il le fera entrer dans son paradis. Mais en vérité, ça sera quoi, on a dit? L'enfer. Il aura avec lui un enfer attisé. Celui qui le démentira, il le fera entrer dans quoi? Dans son enfer, qui sera en réalité un paradis. Barakallahu fikum. Parmi sa fitna, c'est que lorsqu'il passera dans une contrée, il rentrera dans la ville et en sortira.
Lui, il dira à ses trésors de le suivre et les trésors vont sortir et le suivre. Il va piller les richesses des endroits par lesquels il passera. Et les richesses et les trésors de la contrée, subhanallah, vont le suivre. Vont le suivre. Parmi sa fitna, il va prendre un homme. Il va prendre une épée. Et il va le fendre en deux. Littéralement. Puis il va l'appeler et il va se relever entièrement. Vivant. Parmi sa fitna, il dira aux gens lorsqu'il fera ce genre de choses, regardez celui-ci. Je l'ai fendu. Puis je l'ai remis. Et il prétend qu'il a un seigneur en dehors de moi. Quand il va le faire se relever, il va lui dire, qui est ton seigneur? Naam, qui est ton seigneur? Il va répondre, Rabbi Allah. Wa anta aduullah. Il va lui dire, et toi, t'es l'ennemi d'Allah. Wa anta ad-dajjal. Et tu es le dajjal. Wallahi ma kuntu qattu ashaddu basiratan bika minni al-yawm. Il va lui dire, je jure par Allah, que je n'ai jamais été aussi clairvoyant à ton sujet qu'aujourd'hui. Non. Il n'y a pas plus clairvoyant à ton sujet que moi. Parmi sa fitna, il va prendre un bédouin et il va lui dire, vois-tu si je ressuscite ton père et ta mère qui sont décédés? Est-ce que tu attesteras que je suis ton seigneur? Non. Il va répondre oui. Il va répondre oui. Alors, il va faire en sorte que deux shaitans prennent l'apparence de son père et de sa mère. Et ces deux shaitans diront à ce bédouin-là, « Ya Bunay, subhanallah, Ya Bunay, ittabi'ahu. Oh mon fils, suis-le. Fa'innahu rabbuk. Oh mon fils, suis-le, c'est ton seigneur. » Et il va le suivre. Allahu Akbar. Fitnatun azima. Hein? C'est une grande tentation. Et wallahi, quand tu prépares ce genre de sujet, et t'écoutes les muhadrat, et t'écoutes, et tu lis, et tu vois que beaucoup de gens sont perdus dans des fitnes contemporaines. Du matin au soir, ils sont dans telle fitna, dans telle fitna, dans telle fitna, comme des journalistes. Ils suivent les akhbar. Comme les journalistes, la plupart, c'est faux. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais si tu leur parles de la plus grande fitna, depuis la création de Adam jusqu'à la fin des temps, ils ne sont pas capables de t'aligner trois mots. Ça, c'est la fitna que tu dois étudier. Ça, c'est la fitna que tu n'as pas le droit d'ignorer. Sans être un insouciant de ce qui se passe dans la communauté ou dans ta ville, tu dois apprendre la fitna à hauteur de la nécessité. Pour t'en prémunir et ne pas tomber dedans. Tu dois apprendre la fitna à hauteur de la nécessité. Pour avertir ceux qui sont sous ta responsabilité. Et ainsi de suite. Quant au fait d'en faire un sujet comme le journal, et commenter, et comme... Non. Non, tu ne dois pas rentrer dans cela. Tu dois être dans le juste milieu. Barakallahu fikum. Aussi, parmi sa fitna, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, je sais ce que le Dajjal aura avec lui. Ma'ahu, Nahrani Yajriyan. Il aura avec lui deux rivières qui ruisselleront. Il a deux rivières qui coulent. Un d'eux, yani l'une de ces rivières-là, c'est de l'eau blanche. Et l'autre, en apparence, c'est un feu attisé. Si l'un de vous atteint cela, qu'il se rende dans le ruisseau qui, en apparence, est du feu. Jusqu'à décrire la situation qu'il en boit et ainsi de suite. Ça sera pour lui de l'eau fraîche. Puis il a décrit Ad-Dajjal, ça c'est le hadith de Hudhayfa dans Sahih Muslim. Et certains savants ont dit qu'Allah Azzawajal fait en sorte que ce feu soit fraîcheur salutaire pour les croyants, comme il a fait pour qui? Ibrahim alayhi salam. Combien de temps Ad-Dajjal restera sur la terre? Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que le Messie Ad-Dajjal restera 40 jours. Cependant, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste des jours comme nos jours. Naam, calculez.
Un jour comme une année, 360 jours. Plus un jour comme un mois, 29 jours. Plus un jour comme une semaine, 7 jours. Et le reste, comme les jours habituels, 37 jours. Le total, un an, deux mois et deux semaines. Un an et deux mois et demi.
Vous retenez ça. Ça, c'est le temps qu'il va passer sur la terre. Ça, c'est le temps qu'il va passer sur la terre. Est-ce que vous avez déjà vu une description aussi méticuleuse et détaillée sur quelque chose, subhanallah, dans les fitaines? Pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, est aussi, subhanallah, méticuleux, aussi dévoué, aussi conseillé, hein? Pour qu'on tombe pas dans la fitna. Pour qu'on soit préservé. Et ça, c'est une sunna de tout temps, de toute époque chez les ulama de Ahl Sunna. C'est qu'ils avertissent, plus le mal est grave, plus ils avertissent la communauté. Ne vois-tu pas dans tous les livres de Aqidah, quand tu parles du Coran, qu'est-ce qu'ils disent? Al-Qur'an ou Kalamullah. Juste après, ils disent quoi? Ghayru makhlouq. Pourquoi? Parce qu'il y a, la fitna de Khalq al-Qur'an. Parce qu'il y a eu la tentation, imaginez presque un pays tout entier qui tombe dans la fitna. Dans les endroits où il y avait les grands ulama. Jusqu'à ce que les gens doutaient sur la parole de leur Seigneur. Aujourd'hui, une personne se dit, mais comment c'est possible? Subhanallah, des ulama, ils sont tombés dans ça. Et certains sont restés fermes, ils étaient tentés, ils étaient torturés pour dire que le Coran est créé. Hein? C'était un grand trouble. Celui qui disait que le Coran était incréé, il risquait sa vie. Donc quand les ulama les avertissent contre un mal, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Quand ils parlent des fitanes, les expliquent, les exposent, c'est pour que nous, on soit préservés. C'est par rahma envers nous. Donc, d'étudier le bien, c'est obligatoire. Mais il y a du mal qui doit être aussi étudié. Pourquoi? Pour s'en prémunir, s'en préserver et s'en éloigner. Barakallahu fikum. Il va réussir à sillonner tout le bas monde. Sauf Mecca et Al-Madinah. Sauf Mecca et Al-Madinah, d'autres savants mentionnent une troisième ville. Pour preuve, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ala anqabi al-Madinah, malaika. Aux frontières de Médine, il y a des anges gardiens. La yadkhuluha at-ta'un wa al-dajjal. Ni la peste ne peut y pénétrer, ni ad-dajjal. Ni la peste peut y entrer, ni ad-dajjal. Qui sont les suiveurs de Dajjal? Qui sont les suiveurs de Ad-Dajjal? La plupart des suiveurs de Dajjal dans les textes qu'on a, on a Al-Munafiqoun. On a les hypocrites. On a la mention des Arabes, des Bédouins. Et les savants ont dit que le lien, c'est que les Bédouins sont loin des villes en général, donc de la science. Hein? Donc de la science, donc ils se font avoir plus facilement. Une partie des gens du livre, des femmes, et des gens vont se lier, s'organiser pour combattre Ad-Dajjal, mais peu réussiront à le repousser. Savez-vous quelle sera la tribu la plus brave, la plus courageuse, la plus ardente face au Dajjal? Banu Tamim. Banu Tamim. An Abi Huraira radiallahu anhu. Écoutez ce qu'a dit Abu Huraira, notre bien-aimé à tous. Ma ziltu uhibbu bani tamim mundu thalathin sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira a dit, je n'ai cessé d'aimer la tribu de Bani Tamim depuis trois choses que j'ai entendues du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces trois choses, hum ashaddu ummati ala ad-dajjal. Hein? Ils seront les plus forts de ma communauté contre ad-dajjal, rapporté par Al-Bukhari. Donc tout cela, c'est une aqida, ikhwat al-iman. Al-Masih ad-dajjal haqq. C'est une réalité. Il n'y a pas eu pire fitna depuis qu'Allah Azza wa Jalla a créé Adam jusqu'à la fin des temps que Al-Masih ad-dajjal. Un trouble que le prophète alayhi salatu wa sallam a tant mentionné, a tant répété, a tant explicité et détaillé. Est-ce qu'il convient à un croyant qui veut le bien pour lui et le salut de l'ignorer? Hein? Comment se fait-il qu'on donne du temps dans les futilités? On donne du temps dans des fitnes qui sont au bout du monde, qui n'ont rien à voir avec nous, qu'on ne va jamais peut-être atteindre, et on se voit distrait de ceux qui nous guettent tous. Hein? De ceux qui nous guettent tous. C'est un signe de la fin du monde. Et la fin du monde, c'est inéluctable, ça arrivera. Inéluctablement, comme Allah Azza wa Jalla nous le mentionne dans le Coran. Comment se protéger de l'Messie ad-Dajjal? Comment être sauvé de sa tentation et de sa fitna? Les savants nous ont mentionné plusieurs choses, notamment six. Notamment six. Retenez au moins six de ces points-là. Premièrement, at-ta'awudhu min fitnati ad-Dajjal. Premièrement, chercher refuge auprès d'Allah et protection contre la tentation de l'Messie ad-Dajjal. Et ce, après chaque salat obligatoire. Donc combien de fois par jour au minimum? Cinq fois. Le prophète alayhi salatu wa salam disait « وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » Et je cherche protection près de toi contre la tentation de l'Messie ad-Dajjal. Dans Sunan ibn Majah sur Abu Hurayra, le prophète alayhi salatu wa salam disait « فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ » Lorsque l'un d'entre vous a fini le dernier tashahud, qu'il cherche protection près d'Allah contre quatre. Et parmi ces quatre choses, il citait « Wa min fitnati al-Masih ad-Dajjal ». Donc cette sunna-là, elle est très importante, il ne faut pas la délaisser. Un point tel que certains savants, vous voyez que c'était obligatoire. Bien que ça ne l'est pas, mais ça te montre la portée de cette importance. Plus étonnant que cela, certains parmi sahaba wa salaf, lorsque leurs enfants oubliaient « At-ta'awudh min fitnati al-Masih ad-Dajjal », ils lui ordonnaient de recommencer salat. Il lui ordonnait de recommencer salat. Hein? La fitna, elle est grave. La tentation, elle est grave. Tu ne dois pas laisser un jour une salat sans chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Protection contre le Messie ad-Dajjal. La deuxième cause. Al-bu'du an. Wa alla tastashrifa fitnata. Le fait de s'éloigner de lui et de ne pas aller vers la fitna. Le fait de le fuir, de s'éloigner de lui, et de ne pas se rapprocher de sa fitna par curiosité, pour voir, ou bien ta confiance en toi. Hein, c'est l'époque de quoi? Du développement, la confiance en soi et ce genre de bêtises. Hein? Laisse ta confiance à celui qui est le vivant, qui meurt jamais. Laisse ta confiance à celui qui ne dort jamais. Laisse ta confiance au fort, miséricordieux, riche, par son essence. Mais nous, masakin, faibles que nous sommes, comment est-ce qu'on va compter sur nous-mêmes? Si Allah nous abandonne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, les shayatins feraient ce qu'ils veulent de nous. Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. On nous abandonne à notre propre personne, on tombe dans les péchés. Les seuls moments où Allah nous assiste pas, on tombe dans les péchés. Et nous, on va avoir confiance en nous-mêmes. Sans Allah, azza wa jalla, on n'est rien. Sans Allah, on peut rien faire. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, il faut fuir la fitna. Il faut la fuir, il faut s'en éloigner. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Man sami'a bid-dajjal falyan'a an. Falyan'a an. » Quiconque entend la sortie de Dajjal, j'ai pas dit falyan'a an. Falyan'a an. Ça veut dire quoi?
qu'il la fuit, qu'il s'en éloigne. فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ. Le prophète Ali Sarat wa Salam a dit qu'il s'en éloigne, qu'il le fuit. Par Allah, l'homme lui viendra et il pensera qu'il est croyant. Il va venir, il a confiance en lui. Il pensera qu'il est croyant, qu'il est fort dans sa foi. Il finira par quoi? Par le suivre. Allahu Akbar. C'est-à-dire, c'est un croyant qui est fort en apparence. Il finira par suivre Ad-Dajjal. Pourquoi? De par ce qu'il enverra comme ambiguïté. De par ce qu'il enverra comme ambiguïté. Voilà, hawala wala quwwata illa billah. Et de cela, les savants ont tiré le fait de s'éloigner de tous les prêcheurs du faux et de tous les gens de la bid'a, de ne pas tendre l'oreille, de ne pas chercher à savoir ce qu'ils disent, de ne pas aller par curiosité et de s'éloigner des sorciers et de ne pas se rendre auprès des devins pour voir par curiosité et de ne pas ouvrir l'horoscope pour voir par curiosité et etc. Tous ces gens sont des gens qui invitent au faux. Quand tu entends la personne qui invite au faux, ne va pas vers elle. Ne va pas dire, non mais moi c'est pour voir, c'est pour... Non, éloigne-toi. Éloigne-toi de la fitna. Éloigne-toi du trouble. C'est une meilleure garantie que d'aller voir. Barakallahu fikum. Et tous les prêcheurs du faux habituent les gens de la masse à écouter le faux. Comme s'il préparait le terrain pour Al-Messih Ad-Dajjal. Toi, aujourd'hui, tu peux t'étonner. Tu peux t'étonner, tu te dis, mais comment? Une créature vient et te dit, je suis ton Seigneur et tu le suis. Mais subhanallah. Hein? T'as quoi dans la tête? Et ce genre de parole. Wallahi al-azim. Vous voyez le hadith? Il est croyant, il vient et il tombe dans la fitna. Et toi, tu te sens à l'abri? Est-ce que Ibrahim alayhi salam s'est senti à l'abri du shirk alors qu'il a cassé les idoles de sa main droite? Alors qu'Allah Azzawajal lui a donné la révélation, alors qu'il a fait la hijra, alors qu'Allah a fait ses éloges, alors qu'Allah lui a dit de construire sa maison, sa première maison. Ibrahim alayhi salam sentit à l'abri. Wa junubni wa bani ya an na'bud al asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ça c'est la voix des ulama, ça c'est la voix des anbiya avant eux. Ça c'est la voix des gens pieux. C'est avoir peur du mal. Parce que c'est que comme ça qu'on le fuit et qu'on s'en éloigne. Et éloigne-moi, moi et ma descendance, de l'adoration des idoles, c'est-à-dire le shirk apparent. Est-ce que quelqu'un peut se dire, moi je peux tomber dans l'adoration de Bouddha? Mais non, impossible. C'est ça qu'on se dit. Et bien Ibrahim a.s. ne se disait pas ça. El-Asnam, c'est ceux qui représentaient adorateurs d'Allah. Pourtant Ibrahim a.s. a eu peur du shirk. Jali, évident. Hein? Ça c'est la voix des prophètes. Le prophète Ali Sallallahu Alayhi wa Sallam a entendu un jour les sahaba, il leur a dit, ce que je redoute le plus pour vous, c'est Ashirkul Khafi. C'est le politisme dans les intentions, le shirk qui est caché. Hein? Pourquoi ça avait peur de ça pour qui? Sahaba, les meilleurs des gens. Et les ulama imatou da'wa ont dit, si le prophète a eu peur de ça pour les sahaba, shirk asra, qui sont les meilleurs, eh bien, on est, nous, en droit d'avoir peur de quel shirk? Al-Akbar. Hein? Mais ça, c'est pas avec la langue. Ça, c'est un état. Ça, c'est un état du cœur. Quand tu connais la valeur du tawhid, tu connais la gravité du shirk, et que t'as étudié, et que t'as l'expérience des générations passées, et que tu as vu les gens s'égarer, et la minorité suivre leur messager. Là, la vraie crainte, elle se développe. Parce que n'a peur du tawhid, du shirk, pardon, que celui qui connaît le tawhid. Hein? Et si vous étudiez Kitab Tawhid et vous voyez leur, des chapitres, vous allez comprendre pourquoi est-ce que après le mérite du tawhid, l'auteur rahimahullah ta'ala a mis un chapitre sur quoi? La peur du shirk. Hein? Celui qui concrétisait le tawhid, pourquoi? Parce que celui qui concrétisait le tawhid, il va avoir peur du shirk. Il va avoir peur du shirk. Si tu n'as pas peur du shirk, c'est que tu ne connais pas encore bien le tawhid. C'est que tu ne connais pas la dangerosité, les conséquences du shirk. Wala hawla wala quwwata illa billah. C'était le combienième point? Le troisième point, tajdidul iman. Revivifier sa foi. Revivifier sa foi. Parce que c'est ça qui préserve des fitaines, des troubles et des tentations. Le fait de revivifier sa foi de toujours redorer sa foi, nettoyer son cœur, sa foi. Méditez le hadith lorsque le prophète alayhi salat wa salam a dit « Maktoubun bayna aynayhi kafir » sera écrit entre ses deux yeux « kafir ». D'accord. Qui pourra le lire? Celui qui lit bien dans ce bas monde. « Kullu mu'min » Tout croyant. Ici, on attire notre attention sur quoi? Elle est iman. On attire notre attention sur « taqwiyatul iman » sur le fait de renforcer sa foi et que ce sera une cause pour être préservé de Dajjal et de voir sa fitna. Et de s'apercevoir de son mal. S'apercevoir que c'est une personne de mal. Parce que tu vas réussir à lire à hauteur de ta foi. À hauteur de ta foi. Parmi les causes mentionnées par les ulama, elle est hirsu ala al-amal salih. Le fait d'être motivé quant à l'application et quant à la mise en pratique des bonnes œuvres. Un soir, le prophète alayhi salat wa salam s'est réveillé effrayé et a dit Subhanallah, ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقد صواحب الحجرات أي زوجاته يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. Prophète alayhi salat wa salam, comme le raconte Umm Salama, se réveille effrayé. Il dit Subhanallah, exempt soit Allah. Qu'est-ce qu'on a fait descendre comme trésor? Qu'est-ce qu'on a fait descendre comme trouble, comme tentation? Qui va réveiller les habitantes des appartements, c'est-à-dire ses épouses, afin qu'elles accomplissent la prière? Tentation, prière. Fitna, prière. C'est quoi le remède au trouble? Al-amal salih. Occupe-toi de la ibada en temps de fitna. Occupe-toi pas de la langue, de parler, non. Occupe-toi de prier, de faire dua, de te sauver vers Allah Azza wa Jal en tant que fitna. C'est ça qui va te protéger. C'est ça qui va te protéger. Le prophète alayhi salatu wa salam a conclu en disant, il se peut qu'une personne habillée dans ce bas monde soit nue dans l'au-delà. Non. Le fait que tu t'habitues à faire de bonnes œuvres et que tu ajoutes en temps de trouble, tu deviens un serviteur qu'Allah aime. Et qu'Allah préserve spécifiquement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit al-ibadatu fil arj ka hijratun ilay. L'adoration dans l'arj, c'est quoi l'arj? C'est quand il y a les fitan, quand il y a les troubles, quand il y a les gens se battent et sortent les armes et ainsi de suite. Le sang coule. Et ben toi, alors que les gens sont dans ça, toi tu fermes ta porte. Tu fais tes ablutions et tu pries. Dans un temps où les gens sont insouciants et dans le mal, toi, t'adores Allah Azza wa Jal. Allah aime l'adoration qui est faite par le serviteur dans un moment où les gens sont dans la distraction. Naam. Quel est le moment où Allah est le plus proche de son serviteur? Quel est le moment où Allah est le plus proche de son serviteur? Certains ont dit soujoud, certains ont dit dernier tir de la nuit. Mohamed, acha ra'yuk? Tahkum baynahum? Naam? Al-amru ilayya? Wa ana arja'tu al-amru ilayk? Tamam? Tayyib. Notre frère Mohamed dit que c'est moi qui décide. Et moi, j'ai dit que c'est à lui de répondre. Donc, c'était bien essayé. Il rejoint ceux qui ont dit Allah l'essentiel de ce bas monde au dernier tiers de l'année. Taïb. Autre réponse? Non? En prière? En prosternation? Tamam. Comment? Quand la personne fait beaucoup d'adoration? Taïb. Je vais vous dire une faïda de mon professeur de primaire. Écoutez la question, c'est la moitié de la réponse. Ça, c'est une question piège. Mais, ma'adallah, de vous faire tomber vous dans un piège, talabat al-ilm, au niveau dans lequel vous êtes, masha'Allah, tabarakallah. Je n'ai pas dit, quel est le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah. J'ai dit, quel est le moment où Allah est le plus proche de son serviteur. Et ça, c'est un autre hadith. Ça, c'est un autre hadith que vous allez chercher. Na'am. Et à la fin de la saison, Inch'Allah, vous m'apportez le hadith, la parole avec le dalil. Vous n'êtes pas Ahl Sunnah, vous? Hein? Ahl Sunnah, ils ramènent dalil. Quand ils avancent quelque chose, ils ramènent le dalil. N'est-ce pas? Barakallahu fikum. C'est quoi la question? Quel est le moment où Allah est le plus proche de son serviteur? Hein? Quant au sujoud, c'est le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Wadih? Tabayyana lak al-farq ya Mohamed? Tamam. J'étais dans un séminaire avec un de nos frères, le prêcheur Ali, hafidahullahu ta'ala. Et quand on fait des séminaires ou des conférences, j'aime bien être proche de lui et vice versa. Comme ça, on s'aide si j'ai une absence sur un hadith ou bien si je fais une erreur, j'aime qu'il me reprenne. Et quand, dans une conférence, il a cité le hadith que j'attends de vous, j'ai voulu le reprendre par ignorance. Naam. Mais il m'a fait un geste délicat pour dire reste à ta place. Un geste délicat pour dire reste à ta place. Juste, c'est pas ton niveau, tu connais pas le hadith. D'accord? Et j'ai accepté cette délicatesse. Et je l'ai pris avec douceur. Barakallahu fikum. Et c'est une grande faïda pour moi, c'est pour ça que je veux pour vous que ça soit également une faïda, que vous prenez autant de plaisir à découvrir un hadith comme l'effet que ça me fait quand je découvre un hadith. Quand je découvre un hadith, quand j'ai cette joie-là, mes enfants, ils en profitent, ils me demandent de m'engager sur des choses. Parce que ça te donne la générosité quand tu vois le hadith. Tu as découvert un hadith, tu es heureux, tu es content. Tu veux que personne affecte ce moment-là. Tout ce qu'on te demande, tu dis oui, juste pour rester dans ton allégresse. Donc, vous me devez un hadith. D'accord? Vous retenez, qui fait les comptes? Toi, c'est qui était fort dans les mathématiques? Toi, tu fais les comptes. Tamam. Ça, c'est combien tième point? Troisième. C'est ça, les frères? Quatrième. On a déjà cité quatre points, vous êtes sûr? Dites-moi le premier. Dites-moi le premier. At-ta'awuz billah min ad-dajjal. Premièrement, chercher protection auprès d'Allah contre le shaitan, contre le dajjal, particulièrement dans quoi? La fin de la salat, obligatoire. Le deuxième, c'était quoi? S'éloigner de lui. Le troisième, c'était quoi? Revivifier la foi. Le quatrième, c'était celui-ci. Le fait d'être... Tamam, comme t'as crié, Akhi, répète. Le fait d'être motivé quant à l'application des bonnes œuvres. T'avais raison de crier parce que tu l'as bien dit. Voilà, Allah fait. Non, des fois, c'est l'euphorie, je connais. Tu es tout excusé. En plus, t'habites dans le quartier de tout le monde. Si t'habites là où tout le monde habite, je peux pas m'opposer. Vous êtes trop. Tamam. Allahumma barik. Mashallah, quelle bonne rencontre, les frères de ce quartier. Avec tous les préjugés que j'avais sur votre quartier que j'ai. Tamam. Mashallah, jazakum Allah khair. Waffaqana Allah wa iyyakum lil ilmi an-nafi' wal 'amali s-salih wa at-ta'akhi. Qu'Allah nous accorde la réussite dans l'apprentissage de la science utile et bénéfique, dans la mise en pratique des bonnes œuvres et dans la concrétisation de la fraternité. Et qu'il repousse de nous toute personne qui divise. On passe au combien tième point donc? Cinquième point. Taïb. Ma'rifatu sifati dajjal. La connaissance de la description de ad-dajjal. Les frères, vous n'avez pas trouvé de place? Faites de la place à vos frères. Barakallahu fikum. Faites de la place. Tamam? Vous êtes tous bien? Alhamdulillah. Ainsi, on ne pourra pas te tromper. Le manque de connaissance rend sujet la personne à quoi? Ça rend sujet la personne à la tromperie. Parce qu'il n'a pas une connaissance détaillée du sujet, alors on réussit à le duper. Mais dès lors que toi, le croyant, Afwan, tu as une connaissance détaillée de la description d'être Dajjal, eh bien, bi'idhnillahi azza wa jal, tu reconnaîtras. Et quand il va essayer de tenter les gens, eh ben, tu vas dire, ah, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Tu vas reconnaître à la lumière des hadiths. Parce que ce dîn-là, c'est une lumière. Ce dîn-là, c'est une lumière par laquelle Allah Azza wa Jal te donne la clairvoyance. Et vous vous rappelez le hadith. Il n'y a pas un prophète sans qu'il n'ait exposé à son peuple le Dajjal. Et je vais vous informer de ce qui n'avait jamais été dit auparavant. Innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Il est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne. Il est inscrit entre ses deux yeux. Kaf, fa, ra. Naam. On passe au combienième point? Au sixième. Hifdhu ashri ayatin min awwali suratil kahf. La mémorisation de 10 versets du début de suratul kahf. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man hafidha ashra ayatin min awwali suratil kahf. Rapporté par Muslim rahimahullah. Quiconque mémorise 10 versets du début de Suratul Kahf sera préservé de Ad-Dajjal. Sera préservé de Ad-Dajjal. Dans l'autre hadith, toujours dans Sahih Muslim, فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ أَيْ دَجَّال فَلْيَقْرَ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ. Celui qui parmi vous l'atteint, qu'il récite sur lui le début ou l'ouverture de Suratul Kahf. Naam. Et celui qui médite dans Suratul Kahf, naam, il verra des choses extraordinaires. Il verra des choses extraordinaires. Naam. Taïb. Donc, ça fait 6 points à mémoriser, Inch'Allah ta'ala. Ça fait 6 points, vous les apprenez par cœur. Vous les apprenez à vos familles par cœur, en espérant que par cela, Allah Azza wa Jal fasse pour nous et vous une protection et un rempart contre le Messie Ad-Dajjal. Et qu'Allah pardonne et fasse miséricorde à nos savants pour cette science qu'ils nous transmettent. Wallahi, le shirk qui t'enseigne les causes d'être préservé de le Messie Ad-Dajjal. Il a voulu ton bien ou il n'a pas voulu ton bien, franchement. Ça, c'est les ulama. Ça, c'est pas des choses qu'on ramène de nous-mêmes. Ça, c'est l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu dois aimer ton prophète pour tout ce qu'il a fait, et particulièrement parce qu'il nous a transmis. Il n'y a pas un bien qui nous rapproche d'Allah sans qu'il nous l'ait transmis. Il n'y a pas un mal qui nous en éloigne, qui nous rapproche de l'enfer sans qu'il nous en ait averti. Lui, les sahabas ont pris cet héritage et l'ont transmis. Donc, tu vas les aimer. Lui, les successeurs et ainsi de suite, jusqu'à notre époque, les ulama nous transmettent ce savoir-là. Donc, on doit aimer les ulama et on doit invoquer en leur faveur à chaque occasion, ikhwat al-iman. À chaque occasion, sahib sunnah, il mentionne le mérite des gens de bien. Il ne manque pas une occasion de faire les éloges des ulama. Il ne manque pas une occasion de faire les éloges de ceux qui lui ont appris. Il ne manque pas une occasion d'invoquer en faveur des dirigeants des pays. Qu'Allah les préserve, qu'Allah les guide, qu'Allah les oriente et les entoure des meilleurs de leur peuple. Barakallahu fikum. Et Ad-Dajjal est présent, naam, il est déjà présent sur terre. Dans le hadith de Fatima ibn Qais, on mentionne encore 2 points, puis on s'arrête là. Un jour, le Prophète m'a appelé, et les gens sont venus. Et il leur a dit après la prière, personne ne bouge de sa place. Et cette femme, Fatima bint Qais radiallahu anha, dit, j'étais dans le rang qui suivait le dos des hommes. Elle a même pas dit des hommes, elle a dit des gens. Quand le prophète a fini sa prière, il s'est assis sur le minbar. Et il riait. Et a dit que chaque personne reste à sa place dans laquelle il a prié. Savez-vous pourquoi je vous ai réunis? Le hadith est très long, donc je traduis directement. Ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Il leur a dit, je vous ai pas réunis pour un bien ou pour un mal. Mais je vous ai réunis parce que Tamim Ad-Dari était un homme chrétien, il est venu, il m'a prêté allégeance, il s'est converti à l'islam. Et il m'a mentionné un récit qui confirme et en concordance avec ce que je vous ai mentionné concernant le Messie Ad-Dajjal. Il était passager à bord d'un bateau. Il y avait 30 hommes.
Ils furent ballottés par les vagues un mois durant avant de jeter l'ancre sur une île à l'ouest. Ils s'installèrent dans les canaux et pénétrèrent dans l'île. C'est alors que les rencontra une bête hirsute, recouverte de poils dont on ne distinguait pas l'avant de l'arrière, tant elle était poilue. Ils s'exclamèrent « Malheur à toi! Qu'es-tu donc ?»« Je suis El-Jassasa, » répondit-elle. Jassasa, il y a la notion d'espionnage. Comme si on pouvait traduire par « Je suis l'espionne » parce qu'elle prend les informations pour El-Messih Ad-Dajjal. Elle dit au peuple « Rendez-vous chez cet homme qui se trouve dans cette cabane. Il meurt d'envie d'avoir de vos nouvelles. » Lorsqu'elle parla d'un homme, nous craignîmes qu'elle ne soit une démone. Nous partîmes alors à la hâte et quand nous entrâmes dans la cabane, nous fûmes en présence du plus grand homme que nous n'ayons jamais vu et le plus solidement enchaîné. Ses mains étaient attachées à son cou et il était couvert de chaînes, des genoux aux chevilles. Nous demandâmes « Malheur à toi, qu'es-tu ? » Il répondit « Vous pouvez me renseigner, dites-moi, qui êtes-vous » Ils répliquèrent, nous sommes des Arabes ayant embarqué à bord d'un vaisseau maritime. Mais la mer s'est déchaînée et les vagues nous ont ballottés pendant un mois. Puis nous avons jeté l'ancre sur ton île-ci. Nous nous sommes installés dans les canaux et avons pénétré dans l'île. Une bête hirsute recouverte de poils, dont on ne distingue pas l'avant de l'arrière, tant elle était poilue, nous a rencontrés. Nous avons demandé « Malheur à toi, qui es-tu » Elle a répondu « Je suis l'espionne ». Nous avons dit « Et qu'est-ce que l'espionne ?» Elle a dit « Dirigez-vous vers cet homme qui se trouve dans la cabane. Il meurt d'envie d'avoir de vos nouvelles. Nous sommes donc dirigés vers toi à la hâte et nous avions peur d'elle car nous n'étions pas sûrs qu'elle ne soit une démone. » Il dit « Informez-moi de la palmeraie de Baysan. » Nous demandâmes « Que veux-tu savoir à son sujet ?» Il répondit « Ces palmiers, donnent-ils des fruits ?» Nous répondîmes « Oui ». Il dit « Bientôt, ils ne produiront plus rien. Informez-moi du lac de Tabariya, de At-Tabariya. » Nous dîmes « Que veux-tu savoir à son sujet ?» Ils répliquèrent « Il y a beaucoup d'eau. » Il affirma « Son eau est sur le point de disparaître. » Informez-moi sur les puits de Zourar. Que veux-tu savoir à son sujet ?» Il dit, y a-t-il de l'eau dans les puits et les habitants s'en servent-ils pour leur culture? Nous lui répondîmes, oui, il est plein d'eau et les habitants s'en servent pour leur culture. Il poursuivit, informez-moi de ce qu'a fait le prophète des illettrés. Ils dirent, il a quitté la Mecque et s'est installé à Yathrib. Les Arabes l'ont-ils combattu? Poursuivit-il. Nous répondîmes, oui. Qu'a-t-il fait d'eux? Demanda-t-il. Nous l'informâmes qu'il avait vaincu les Arabes de son voisinage et qu'il lui avait obéi. « Cela s'est-il produit ?» leur demanda-t-il. Nous répondîmes « Oui ». Il déclara « Il est meilleur pour eux de lui obéir. Je vais vous donner des informations sur ma personne. En réalité, je suis le Dajjal. Peu s'en font pour qu'on me permette de me manifester, d'apparaître. Je me manifesterai donc et parcourrai la terre en ne laissant aucun village sans y entrer en 40 nuits. » Sauf la Mecque et Taïba. Elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais entrer dans une ou dans l'une d'elles, un ange me rencontrera brandissant un sabre à la main pour me barrer la route. Sur chacun de ces passages, il y aura des anges qui la protégeront. Fatima radiallahu anha continue et dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit en donnant un coup de bâton sur le minbar, celle-ci est Taïba, c'est-à-dire El Medina. Ne vous ai-je point rapporté ce récit? Les fidèles répondirent, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, ce qui m'émerveille dans le récit de Tamim, c'est qu'il coïncide avec ce que je vous disais à son sujet, ainsi qu'au sujet de Médine et de la Mecque. Il se trouve dans la mer du Chem ou dans la mer du Yémen. Il est plutôt du côté de l'Orient. Et il pointa son doigt vers l'Orient. Voici le hadith que Fatima bint Qays radiallahu anha mémorisé du prophète alayhi salatu wassalam et il est rapporté par l'imam Muslim.
Comment sera la fin de le Messie Ad-Dajjal? Pour finir, comment sera la fin de Al-Masih Ad-Dajjal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la fin et qui mettra fin au Messie Ad-Dajjal. Vous avez entendu sa tentation. Vous avez entendu son mal, sa description. Vous avez entendu le trouble qu'il va semer sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde et sa force, ne laisse jamais un mal, na'am, s'éterniser. Ne laisse jamais un mal s'éterniser. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala permettra à Isa ibn Maryam de descendre. Comme vous le savez tous, il a été élevé au ciel. Il a été élevé au ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra de descendre. Il lui permettra de descendre. Et c'est par la cause de Isa alayhi salam, le fils de Maryam alayhi salam, qu'il périra. Comme les hadiths authentiques nous l'ont mentionné. Les croyants vont se réunir. Isa alayhi salam va descendre sur les minarets d'Orient, de Damas. Les serviteurs d'Allah croyants vont se réunir auprès de lui. Et il va les amener. Ad-Dajjal sera là et ne pourra pas faire face aux croyants de Baytul Maqdis. Après avoir semé le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Isa ibn Maryam l'atteindra à un endroit qu'on appelle Bab Luddin. Na'am. Et lorsque Dajjal le verra, il va fondre comme le sel fond dans l'eau. Et c'est ainsi que périra Al-Masih Ad-Dajjal. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wa salli Allahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité cette assise fraternelle. Quelques passages, je ne les ai pas mentionnés volontairement, en espérant qu'on ait d'autres assises pour décrire que tout cela se passera à l'époque de Al-Mahdi et que il présidera la prière, que Isa va arriver à l'heure de Salat. Et qu'il va reculer pour laisser Isa présider la salat, mais il va lui dire non, votre imam fait partie des vôtres. Pour honorer cette communauté, l'imam sera quelqu'un de la communauté jusqu'à la fin de ces récits qu'on détaillera inshallah ta'ala dans une autre conférence sur des points de la fin du monde. Allah récompense tous ceux qui ont été à la cause, tous ceux qui ont été la cause de cette assise fraternelle et quelque peu scientifique. Allah Azza wa Jalla récompense tous ceux qui se sont entraînés dans le bien et qui ont fait l'effort de venir. Allah récompense ceux de près ou de loin qui nous ont aidés, ne serait-ce qu'avec cette dua. Jazakumullahu khayran. Je remercie enfin Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir rencontré mes chers frères en Allah de ce cher quartier. Allah Azza wa Jalla nous accorde la réussite, la science utile, les œuvres pieuses. Et tout comme vous avez peuplé cet endroit, Allah fasse que vous peupliez, vous, vos parents, vos enfants, vos proches, vos savants, le paradis. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne question. Masha'Allah. Qui a trouvé notre hadith? Tafadhal. Anis va nous réciter ce hadith. Tafadhal. Écoutez le hadith, les frères. Le frère va vous offrir un hadith. Iqra. An Amr ibn Abasa. أقرب ما يكون الرب من العبد من العبد في جوف الليل الآخر. من رواه؟ Qui a rapporté ce hadith? Là, le takhrij, le dans quel recueil? Akhrajahu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i. Wa an-Nasa'i. Hakadha. Donc, le hadith, le moment où le Seigneur est le plus proche du serviteur, c'est dans les ténèbres de la nuit. Fi jawfi al-layl. C'est la moitié de la nuit. Yani quand c'est dans la pénombre. Naam, c'est le hadith de Amr ibn Abasa. Il est rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Wadih, vous avez la réponse? S'il y a une devinette une prochaine fois, vous êtes attentif. Hein? Vous êtes attentif. Naam, Cheikh Mohamed. هذا يوافق نزول الرب. طيب نزول الرب في ثلث الليل الآخر. نعم. طيب وماذا ترجح في ثلث في نصف الليل؟
يعني بعضهم جمعوا فقالوا من الكل جائز.
أيوة. طيب الأحاديث المتكاثرة أكثر ما جاءت. نعم. وأحاديث النزول من يعني بلغ حد التواتر. نعم في ثلث الليل الآخر إذا سرنا إلى الترجيح. طيب هذا أعم من ذلك. نعم هذا أعم من ذلك. donc dans la la pénombre de la nuit ou à la moitié de la nuit. نعم طيب. ensuite dans la nuit c'est quoi le meilleur moment? hein? c'est le dernier tiers de la nuit. c'est le dernier tiers de la nuit. barakallahu fikoum. Ça, c'était pour vous donner la faïda de ce hadith-là. C'était tout ça pour vous donner la faïda de ce hadith-là. Jazakumullahu khairan.